Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
La dernière heure des grandes gueules du sport dans cette journée de grosse étape, hein, du Tour de France, la 15e arrivée au plateau de Soissons. On espère que Paul Sexton va encore s'illustrer. Intégral Tour dès 13h. Et la finale de la Coupe du Monde, Argentine-Espagne, 21h à vivre sur RMC dès 20h avec toute la Dream Team sur place, aussi évidemment à New York avec Jean-Louis Tour aux commentaires. Vous retrouvez les deux premières heures des grandes gueules du sport en podcast. On s'est demandé de manière enflammée si les Bleus avaient raté leur Coupe du Monde, Fred.
Oui, le don.
Ça rend encore fou les autres GG. Ce débat, on a parlé de Paul Sexton. C'est ce qu'il doit viser à la deuxième place, Fred.
Oui. On ne peut pas toujours de dire c'est non. Ça. Pour une fois qu'il dit oui, on n'est pas content quand même.
Et après, je te demandais si tu pouvais pas me donner 100 balles.
Non.
Ah mince, j'ai essayé dans la continuité. Mais bon, c'est bien quand même. Dans la psychologie, t'es fort, très, solide. T'es très solide. Dans un instant sur le buzzer, le Tour de Pogacar vous intéresse-t-il alors qu'il a 4 victoires d'étape déjà et qu'il survole le classement général? En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG ce week-end. Remportez un bon cadeau de 50€ à valoir sur Agfa Photoprint. Vous pouvez imprimer vos meilleurs souvenirs de vacances, par exemple, je sais pas, un cliché de Pascal Dupraz en train de chanter Eddie Mitchell. Ça peut avoir sa place sur un mug, je pense, si on l'a.
Je le veux tout de suite.
Sûr, avec un vieux micro.
Ouais,
c'est une curieuse émission quand même, hein, parfois. Allez, pour remporter votre bon cadeau Agfa Photoprint, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 7 32 16, sport au 7 32 16. Mais donc ça y est, c'est fini. Didier Deschamps a tiré sa révérence hier soir. Oui, c'était la dernière séance. Un autre héros national, peut-être le plus grand, débarque sur le banc des Bleus.
Même fabrication.
Zidane sur ce premier corner français.
Même modèle.
Et but, Zidane. Et c'est le doublé de Zinedine Zidane.
Nouvelle mission.
Moi, j'ai rien sollicité du tout.
Oh non, pas ça, Zinedine.
J'ai mûrement réfléchi à ma décision. Et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps.
Si vous pensiez avoir tout vu.
C'est parti, la Panenka. Quel incroyable geste signé Zinedine Zidane.
Cette fois, il revient. Pour de bon.
Je crois que je vais mettre un terme à ma carrière en équipe de France.
Il y avait longtemps que je t'attendais.
Et si vous pouvez parler d'autre chose?
Destiné, on était tous les deux destinés.
Allez, vas-y, Pascal.
Oh non, tes conneries.
Allez, Pascal.
Allez, c'est bon, vous n'allez pas me chauffer, non, allez. Fred va chanter, vas-y.
Allez, Fred.
Destiné.
Voilà.
Nous étions tous les deux destinés.
Tous les deux, c'est l'équipe de France.
Continue à jouer au basket.
On va t'arrêter il y a très longtemps. Hein.
La bienveillance n'est pas au rendez-vous dans cette émission.
Non, mais tu as remarqué, quoi. Effectivement, pas de bienveillance. Pascal dit Fred, vas-y. Et c'est le premier à me tirer dessus.
Alors que toi, tu l'as.
Ouais,
l'as...
Attendez,
tu peux jouer au basket en chantant.
Ouais, tu peux pas jouer au basket en chantant.
Non, je crois pas.
Pourquoi pas, concept. Il y a un truc à faire. Bon, destiné, oui, la destinée de Zidane. C'est fou quand même, quand on réécoute tout ça, on se rend compte qu'il a été un sacré créateur de frissons, hein, Zidane. Oui. À chaque fois qu'on réécoute, il va donc prendre le costume de sélectionneur des Bleus, hein, a priori, allez, je mets des guillemets, cette semaine, histoire 2, à 54 ans. Le champion du monde 98, je vous rappelle, n'a plus entraîné depuis 2021 et sa dernière expérience au Real Madrid, où il a remporté trois Ligues des Champions, deux Ligas comme entraîneur principal, il en a gagné une comme adjoint. Sa lourde tâche, prendre la suite de Deschamps et ses 14 ans à la tête de l'équipe de France. Je vous pose cette question, les amis, sur Zidane. Est-ce qu'il y a trop d'attentes autour de lui? Oui ou non? Marion.
Oui.
Fred.
Je suis d'accord avec Marion, oui. Je me sens pas bien. Attends, je vais peut-être reposer la question, on va pour être sûr.
Nestine. Sarah.
Oui.
Pascal.
Non.
Ah, non. Pour toi, non. Supporter des Bleus, évidemment, on vous attend au 32-16. Arthur Perrault, au plus près de l'équipe de France, vous le savez, depuis Miami pour RMC. Salut Arthur.
Salut les grandes gueules, salut à toutes et à tous.
Qu'est-ce qu'on peut dire ce matin de l'arrivée imminente, hein, on va le dire, de Zidane sur le banc des Bleus?
On peut dire que très clairement, tout est en train de se mettre en place en coulisses. Hein. La Fédération française de football répète ne vouloir rien précipiter, mais cela va clairement s'accélérer dans les prochains jours. L'officialisation d'ailleurs du futur sélectionneur est attendue à la fin de la semaine prochaine ou au début de la semaine suivante. Une chose est sûre, sauf énorme surprise, Zinedine Zidane sera nommé avant la fin du mois de juillet. D'ailleurs, cela a été confirmé hier soir par le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, au micro de beIN Sport en avant-match. Preuve que la machine est déjà lancée. Selon nos informations, Zinedine Zidane a déjà verrouillé une première partie de son staff. On parle d'environ 7 fidèles, pour la plupart déjà présents à ses côtés au Real Madrid. Mais ce n'est qu'un début, et ça, il faut que tout le monde en ait bien conscience. L'encadrement pourrait dépasser les 25 personnes, avec une volonté affirmée de féminiser plusieurs postes, notamment dans la cellule data et performance, un secteur que Zidane juge stratégique. Un projet ambitieux aussi, qui suscite tout de même quelques interrogations à la Fédération française de football, car un staff de cette ampleur représente forcément un coût, alors que l'instance connaît un contexte économique très très instable.
Merci Arthur pour toutes ces infos. Nous on prend l'officialisation en fin de semaine, bon, en plein milieu des grandes gueules du sport par exemple. Évidemment ça nous fera de bons débats, quoi qu'il arrive. Là ça va nous renouveler les débats autour de l'équipe de France. Zidane, est-ce qu'il y a trop d'attentes autour de lui? Tu dis non, Pascal?
Non, il y a l'attente qui est à la mesure du sélectionneur ou du futur sélectionneur. C'est-à-dire que Zidane, ben on l'attend depuis tellement longtemps, toute la France l'attend, à tel point que on supportait plus que Deschamps soit le sélectionneur et qu'il prolonge sans cesse. À tel point presque qu'on supportait plus que Deschamps obtienne des résultats.
Tu parles pas de tu parles le climat général en France.
Non, hein, ouais. Climat général en France, en fait, ça a participé aux critiques. Le fait que Zidane soit subodoré à la tête de l'équipe de France a participé au fait que beaucoup critiquent
Deschamps.
Voilà, en arguant du fait que Deschamps s'appropriait l'équipe de France et qu'il ne partait pas. Ce qui peut être légitime, attention, hein, c'est le commentaire que je fais, uniquement un commentaire, c'est pas le mien. Non, ce qu'on attend, c'est que, en fait, le sélectionneur de l'équipe de France est le sélectionneur le plus attendu de tous les sports collectifs français. Et à partir du moment où ce sélectionneur va être l'icône du football français...
C'est normal.
Le personnage préféré des Français, ben c'est bien normal qu'il y ait des attentes. Donc Zidane, dès le mois de septembre, eh ben, il va être attendu parce qu'il y a la Ligue des Nations, il y a 6 matchs en 2 mois, et puis ensuite en 2027, il y a les éliminatoires pour le championnat d'Europe 2028, et il va être donc attendu, et ce qu'on espère de lui, et c'est bien normal, c'est de respecter, c'est qu'il fasse au moins aussi bien que Deschamps, et qui joue beaucoup mieux.
Ah bah, il y a des attentes quand même, effectivement, Sarah.
C'est pour ça que moi je réponds, y a-t-il trop d'attentes, beaucoup d'attentes autour de Zidane? Parce qu'en fait, effectivement, il y a cette impression qu'il est destiné au bleu. Et cette impression-là, elle s'est construite avec le temps, en fait. C'est qu'à chaque fois qu'il y avait le renouvellement de Deschamps, ça repoussait l'arrivée de Zidane. Donc effectivement, cette attente, elle est montée au point qu'aujourd'hui, on l'attend comme le Messie.
Non, mais c'est intéressant ce que dit Pascal. C'est vrai qu'elle est peut-être pas disproportionnée vu la disproportion du personnage,
oui,
en fait.
Mais il y a des pièges dans cette mission de Zidane. Les pièges, c'est qu'un sélectionneur, il dispose beaucoup moins de temps qu'un entraîneur de club. Déjà.
Il n'a pas de temps.
Pardon ?
Il n'a pas de temps même.
Il n'a pas de temps,
oui,
le sélectionneur.
Il n'a pas de temps. Que les compétitions se jouent souvent sur quelques matchs, que les détails font la différence. Donc, qui dit détail, ben, un côté aléatoire. Et puis, même avec un effectif exceptionnel, ben, c'est extrêmement difficile de gagner une Coupe d'Europe ou un championnat d'Europe. Donc, comme on va juger Zidane, on va forcément juger sur des résultats qui devraient être ou attendus comme meilleurs que Deschamps.
Si ce n'est pas exceptionnel, en fait, ce sera décevant de par le fait que c'est Zidane, en fait. Marion.
Oui. Donc, est-ce qu'une simple demi-finale perdue, est-ce que nous, on va s'en contenter?
Ah bah ouais, raccourci.
Ce serait un échec.
Ça serait très cool du monde gratté.
Marion.
Non, mais en fait, effectivement, il a un tel aura, un tel charisme, il nous a tellement apporté de moments exceptionnels dans l'histoire du sport français, les attentes sont tellement élevées qu'en fait, moi, j'ai l'impression qu'on pense que Zizou, c'est la solution magique à tous les problèmes. Qu'en fait, il suffit qu'il arrive, qu'il a tellement gagné avec le Real, qu'il va nous faire, je dis nous, on va dire français, hein, qu'il va faire gagner les l'équipe de France à tous les coups. Et moi, j'ai très très peur de ça, parce que comme l'a parfaitement rappelé Sarah, être entraîneur de club et être sélectionneur d'une équipe nationale, ça n'a rien à voir. Ces deux métiers qui sont complètement différents. Surtout qu'en plus, lorsqu'il prend le Real, il était déjà adjoint d'Ancelotti depuis un moment. Il connaissait par cœur tous les joueurs. Il connaît par cœur, bien évidemment, tous les rouages du Real, puisqu'il a été en tant que.
Enfin, là, je pense qu'il connaît bien Mbappé, Dembélé et les cadres de l'équipe de France, Zidane.
C'est pas pareil de les avoir que quelques jours, de les avoir tous les jours à l'entraînement.
Oui, mais cela dit, Marion.
Non, mais là où je pense que les joueurs vont vraiment avoir peut-être une attitude différente, c'est que, par exemple, la première mi-temps qu'on voit hier, si t'as Zidane sur le banc, je pense qu'il y a un tel respect pour le joueur. Et d'ailleurs, ça avait été très bien décrit lorsqu'il était rentré dans le vestiaire du Real. Même Cristiano été en admiration totale devant Zizou. C'est-à-dire que là, il y a un tel aura, il y a un tel mythe.
Ah bah oui, mais là, ça veut dire que tu penses que parce que c'est Deschamps, que là, ils ont pas allé au bout hier.
J'ai un petit côté de moi qui me dit que si c'était Zizou sur le banc, je pense qu'il y aurait certains qui se seraient
repoussés. L'Argentine avec Maradona sélectionneur, ils ont fait des matchs terribles aussi, hein.
Oui, bien sûr. Mais bon, pour moi, le mythe de joueur et l'impact qu'il peut avoir dans le vestiaire va être absolument colossal. Mais je dis attention à ne pas penser à la solution magique.
C'est contradictoire ce que tu dis. Les fortes attentes de Zidane, tu les as toi-même. Puisque tu nous prédis qu'en cas de mi-temps comme celle d'hier, c'est impossible avec Zidane. Donc c'est toi qui places la barre trop haute.
Il y a autre chose, hein. Il y a entre ne pas du tout jouer au foot et arriver à gagner une Coupe du Monde, il y a quand même une petite écart. Tu vois, Pascal? Donc là, pour l'instant, attention de ne pas trop s'enflammer. J'espère du fond du cœur que, bien évidemment, il va arriver à développer cette équipe et la faire gagner. J'espère profondément, mais je dis que je vais pas lui tomber à bras raccourcis s'il perd en demi-finale du prochain Euro ou en finale du prochain Euro.
Il est comme tous les sélectionneurs, il va être logé à cette enseigne-là. Il a pas de temps et il va être jugé, mais il le sait, ça.
Voilà. Tiens, sur WhatsApp, Eric me dit il y a trop d'attentes envers Zidane, mais c'est malheureusement inévitable dans le foot actuel et le phénomène de surmédiatisation de ce sport. Ouais, je pense que même il y a 10 ans, il y aurait eu beaucoup de pression, hein, peut-être autour de Zidane, mais on peut en débattre. Philippe me dit il y a trop d'attentes autour de Zidane, surtout si on pense, sauf si on pense qu'on va gagner la prochaine Euro et la prochaine Coupe du Monde. Donc c'est vrai qu'il va falloir voir où on met le curseur de l'ambition. Mais en fait, Fred, la question qu'on peut se poser, toi, tu disais plutôt oui, il y a trop d'attentes autour de Zidane.
Oui,
mais en fait, est-ce qu'on va être plus exigeant ou justement on va excuser plus de choses à
plus indulgent à plus exigeant
parce que c'est Zidane.
À mon avis, on sera un petit peu plus indulgent au départ, mais il faut se rappeler quand même que cet homme, on l'a béatifié, hein.
C'est Dieu.
Donc c'est un saint. Et à partir de ce moment-là, on a un respect tellement énorme, on a l'impression que tout ce qui touche se transforme en or. On a envie que cette équipe joue très bien au foot. Quasiment en une touche de balle, hein. Ouais, parce que sinon, il faut que ce soit beau, quand même.
Ce qui n'était pas le Real de Zidane.
Ce qui n'était pas du tout le Real de Zidane, faut s'en rappeler. Qu'on défend très bien, qu'on n'encaisse pas de but, et qu'on fasse à minima ce qu'a fait Deschamps. À minima. Parce que si on fait pas, et si là on dit que les attentes ne sont pas complètement folles.
Ta liste, elle est invraisemblable, t'imagines?
Volontairement, j'ai établi cette liste pour démontrer que, bien sûr que c'est trop énorme.
Non, mais en fait, il est
bien sûr que c'est pas possible. Bien sûr que c'est inconsidéré, tout simplement, parce que c'est Zidane, et que, comme on l'a béatifié, tout ce qui touche se transforme en or. C'est pas si simple que ça.
Mamad qui nous appelle au 32-16 depuis le Val-de-Marne. Salut Mamad.
Oui, bonjour.
Bon,
bonjour.
T'en penses quoi? Là, c'est un sujet qui va nous enflammer, évidemment, dans les prochains mois, prochaines années, hein. Mais est-ce qu'il y a trop d'attentes autour de Zidane, selon toi?
Bah, il y a une attente naturelle, hein. Parce qu'à partir du moment où c'est le grand Zizou, tout le monde attend, quitte à ce que la France ne gagne pas de compétition avec Deschamps, parce qu'il y a des Français qui détestaient tellement Deschamps, qui voulait que Deschamps ne gagne pas cette Coupe du Monde-là.
Hein,
parce que Zizou venir avec un titre de Deschamps, ben en fait, là, il met la barre très très haute. Mais Zidane, moi, je vais être intransigeant avec lui. À un moment donné, t'es sélectionneur, tu veux être sélectionneur de l'équipe de France. Et à partir de ce moment-là.
C'est-à-dire Zidane, comme si c'était n'importe quel autre entraîneur, comme si c'était, je sais pas, Rudy Garcia, Bruno Genesio, qui serait arrivé sur le banc de l'équipe de France, pour toi.
Non, mais le fait que ça soit Zizou.
C'est dur, hein.
Et le fait que ça soit Zizou et qu'il y ait une grosse attente, ok. Il a une cote de popularité, il n'y a pas de problème. On aime tous Zizou, on veut que l'équipe de France gagne. Mais par contre, il n'a pas intérêt à se louper, Zidane, hein. Il n'a pas intérêt à se louper. Parce
alors,
que
qu'est-ce que ça voudrait dire se louper? Parce que la plus grande compétition. Enfin, bon, il y a la Ligue des Nations, on a dit, il y a des matchs là, des septembre, mais je pense qu'il sera en rodage.
25 septembre contre la Turquie.
Mais donc, le championnat d'Europe, ça veut dire que par.
Sur l'Euro, tu dis quoi,
ça veut dire qu'il faut qu'il gagne?
Non, mais là, Deschamps, il lui laisse une Ferrari. Il ne peut pas en faire une Clio. Donc,
elle a tenu une grande en plus. Hein.
Là, je vous le dis juste.
Qu'il fasse aussi bien que Deschamps.
Ça veut dire dernier carré.
Aussi bien. Dernier carré dans toutes les compétitions.
Okay.
Mais non, parce que donc on nous a dit que faire demi-finale à la Coupe du Monde, c'était raté.
Mais non, mais dans ce concept-là.
C'est un contexte différent. J'ai remarqué que tu aimais beaucoup prendre des exemples. Qui ne correspondait pas du tout à ce qu'il disait.
Oui, c'est ça. Ne pas assumer ce qu'on dit.
Mais j'assume complètement.
Je peux pas dire à Fred, c'est ne pas assumer ce qu'il dit. Pour le coup, c'est quand même Jean-Michel, j'assume tout. Je remercie Mamad d'avoir été avec nous au 32-16. C'est quoi, moi, j'ai quand même un côté. Alors, c'est un confrère qui a dit ça de Débapadou, pour ne pas le citer, de France Football il y a quelques jours.
Il n'y a pas touché à Zizou.
Non, c'est pas ça. J'ai quand même un petit côté à me dire, je ne sais pas si je suis si content de voir Zidane arriver sur le banc de l'équipe de France parce que. J'aimais bien aussi cette figure un peu au-dessus de la mêlée, l'idole, intouchable, et qui redescende dans l'arène comme ça, parce que là il va être dans l'arène.
Vous savez que les sélectionneurs
ils sont confrontés à plein de questions de société également. Hein. Zidane il va être très exposé. Donc là, voilà, tu parlais de Maradona tout à l'heure.
Maradona qui a été sélectionneur, c'est une catastrophe pour lui, pour tout le monde. Il a été critiqué.
Il est redescendu
de son piédestal plusieurs fois.
Ouais, il reste un héros, mais ça a été une séquence. C'était une séquence qui a été quand même douloureuse aussi pour Maradona. Et c'est vrai que, alors ça va pas complètement changer son histoire, mais il faut être conscient que il peut se passer ça qu'on n'a pas eu avec Zidane en fait.
Ouais, c'est clair.
On n'a pas eu de séquence douloureuse. Je sais pas dans les conférences de presse parce qu'on est au Real Madrid, il est loin pour nous Zidane au Real. Tous les jours, il y a Edgar Grollo qui lui pose des questions. Ça va aller. Mais non, mais je sais pas. Non, mais est-ce que vous inquiète ça? L'image de Zidane.
Non, moi j'attends Jean-Louis qui va arriver en conférence de presse, qui va dire Zizou, ta compo, tu peux nous l'expliquer parce que nous on l'a pas compris.
Non mais on posera les mêmes questions à Zidane en fait. Pascal, toi est-ce que quand même tu te poses la question sur ça, sur la
non,
figure?
Non, parce que le plus important c'est que Zidane a vraiment envie d'être sélectionneur de l'équipe de France, et ça c'est le plus important. Donc c'est presque rassurant. Voilà, c'est presque rassurant. Donc il a envie de le faire, il a envie de se mettre en difficulté, se challenger.
Tu sais, ça va être intéressant de voir aussi ce qu'il va mettre en place au début, parce que là, il nous a annoncé un staff qui va être bien plus élargi.
Oui,
donc, qu'est-ce qu'il voit comme différence? Qu'est-ce qu'il veut mettre en place? C'est ça qui va être aussi.
Mais cela dit, là où je suis pas d'accord avec toi, Marion, c'est que ça l'absout pas de perdre un match ou de rater une mi-temps. C'est pas parce qu'il y a Zidane à la tête de l'équipe de France qu'on est sûr que l'équipe de France ne perdra jamais sous son air 4-0 à la mi-temps.
Est-ce que Zidane
il marchait sur le terrain.
Est-ce que Zidane
quand même, Pascal? Non,
je pense malgré tout que même Zinedine Zidane aura maille à partie avec Cherki, par exemple.
Est-ce que Zidane
qu'il le fasse s'insérer dans un collectif?
Est-ce que Zidane a le droit de proposer autre chose que du beau jeu? Vu l'attente qu'il y a eu sur le jeu.
Vu l'attente, non, parce qu'on a tellement critiqué Deschamps. Avec les résultats qu'il avait, s'il ne propose pas du beau jeu, je vois pas comment on pourrait lui pardonner. Alors effectivement, il a encore cette aura qui lui permet normalement d'avoir un peu de temps tranquille. Mais à un moment, on va critiquer le fait qu'on joue pas bien. Hein. Enfin, j'espère, parce que sinon, ce serait
non,
un peu dégueu. Ça serait dégueulasse pour Didier Deschamps.
Oui, mais Fred, moi, j'attends justement tous ceux qu'on désinguait Deschamps en permanence, souvent gratuitement. J'attends de voir s'ils ont la même sévérité quand il s'agira de.
Pas au début, mais tu verras, c'est un effet de masse. À un moment, on va commencer à les gratigner, ça va aller au fur et à mesure. Alors, je ne lui souhaite pas, évidemment, je souhaite que ça se passe très bien. Mais si ça, c'était le cas, ça va se passer comme ça. Il y en a un qui va y gratigner, deux, et puis la meute va se jeter sur lui.
Mais est-ce que Zidane est un tacticien aussi méticuleux et rigoureux que Deschamps? On sait que c'est un très grand manager, c'est ce qui a été loué par le vestiaire.
Je trouve que c'est par on le réduit par Real. Le manager, on gagne pas 3 Ligues des Champions par hasard sur le Real.
Mais comme on disait, c'est-à-dire que au Real, il a
coche
pris une
toutes
équipe
les cases, mieux que personne.
Non, mais surtout il était lui-même aussi très grand tacticien en tant que joueur.
Sarah.
Il voyait tout, c'était le tour au milieu.
Oui, mais on le disait, c'est-à-dire que tacticien au Real, c'est-à-dire qu'il avait les joueurs tous les jours avec lui pour travailler des phases de jeu. Là, il va devoir composer une équipe de joueurs qui viennent de différents clubs. Et c'est là que je pose la question. On louait quand même le côté rigoureux et tacticien de Deschamps. Alors peut-être qu'on n'était pas d'accord avec ce côté qui a été longtemps plutôt défensif parce que effectivement il n'y avait peut-être pas le matériel humain pour en mettre quatre devant. Mais oui, je pense que ma question elle est quand même légitime. On sait que c'est un grand manager, mais vraiment un grand tacticien.
Mais puis surtout, mais alors,
Sarah,
des, Sarah et Marion, ok, très bien, mais les Français ne regardaient pas tous les matchs du Real Madrid de Zidane, hein.
Ah non.
Donc, c'est-à-dire que le grand public, surtout, public, c'est un truc un peu généraliste, mais c'est-à-dire que le grand public peut-être se fait une image de ce qu'est le jeu du Zidane, qui ne correspondra pas à la réalité, et là, tout le monde va avoir tous les matchs sous les yeux et va se faire sa propre opinion, et peut-être qu'il y aura des déçus, ils vont se dire. C'est pas ce que j'attendais parce que je me suis imaginé un truc absolument merveilleux. Ça va être difficile.
Si par exemple on considère, encore une fois c'est le conditionnel, on considère que l'équipe de France manque de talent sur les côtés défensivement, c'est ce qu'on considère alors que Deschamps était le sélectionneur, Zidane il aura exactement le même problème.
Bien sûr.
Il a beau être très bon tacticien, il a beau être adoubé, il va falloir qu'il solutionne ces problèmes là c'est sûr que s'il a des Upamecano à chaque poste derrière,
il va redevenir un terrien. Zidane, il va revenir avec nous, avec les mortel, et on va le juger comme un mortel. Exactement, c'est le plus important, et on a envie de le voir. Voilà. En fait, il y a une unanimité. On a envie de le voir, évidemment.
25 septembre prochain, on va tous être devant.
Devant la radio.
C'est ce que j'ai essayé de réajuster. À écouter la
devant
radio.
La télé en écoutant la radio.
Non, déjà la première conf. Alors moi, la première conf, ça va être mémorable. Je pense que la salle de presse va être très grande.
J'ai écouté l'analyse de Sarah Pudkowski. C'est bien.
Non, ça a quand même pas été un très grand communicant, pardon, Zinedine Zidane. Hein. T'es plutôt bien connu pour être très discret.
Oui,
là, il va falloir qu'il s'explique. Il va falloir qu'il aille contre nature. Ça va être
très intéressant, évidemment, de découvrir ça, parce qu'on va découvrir au quotidien, même si être sélectionneur, c'est pas être là au quotidien, mais ce que c'est Zidane, finalement, comme entraîneur. On a hâte de voir ça, évidemment. Vous l'avez entendu, Arthur Perrault, les dernières informations à RMC Sport. Une officialisation pourrait intervenir en fin de semaine, la semaine qui va commencer demain, ou en début de semaine suivante. Donc c'est imminent pour la déclaration, la première de la Fédération Française de Football pour dire Zidane est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. On a hâte, évidemment, ça nous fera beaucoup de débats dans les grandes gueules du sport. Et d'ailleurs, Zinedine, si tu veux venir...
T'es
bienvenue. Hein, voilà. À table des grandes gueules du sport, évidemment... Là, à ma place même. Voilà, j'accepte. Fred, non, tu peux pas venir là.
Dommage.
Parce que bon, t'es un peu bougon quand même ce matin. Mais t'assumes. Et ça, je respecte.
Et ça,
allez, le buzzer tout de suite, le tour de Pogacar. Vous intéresse-t-il en fait ? Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Ce soir, c'est la finale de la Coupe du Monde à 21h entre l'Argentine et l'Espagne. Soirée spéciale sur RMC dès 20h. On est évidemment sur place à New York, dans le New Jersey, surtout au MetLife Stadium, avec Jean-Louis Tour et toutes les équipes. Et puis il y aura l'after derrière avec Gilbert Bribois et toute la team, avec Daniel Riolo, notamment, bien sûr. Pour revenir sur cette finale de la Coupe du Monde qui va aller chercher une nouvelle étoile ce soir entre la Roja et l'Albiceleste de Lionel Messi et donc Yamal du côté des Espagnols. Dans un instant, les jeux du sport qui vont être piquants aujourd'hui, je sens, avec Fred Weiss, Mario Martoli, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat. Là, j'ai que des compétiteurs autour de la table, mais en même temps je me demande qui n'est pas compétiteur dans ces GG. Vous êtes tous complètement fous en fait.
Et puis il n'y a pas Bennett, donc on a une chance.
Oui, c'est vrai. Bennett, c'est vrai que... Mais Bennett, moins performant depuis quelques temps.
Ouais, il s'en fout, il m'a dit.
Ouais. Ah oui, c'est vrai.
J'en ai marre. Trop facile, ces blaireaux là.
On vérifiera pas ces propos, évidemment. Oui. On les prendra tels quels. Allez, sur le buzzer, les amis. Alors, vous l'avez peut-être raté parce que vous étiez trop concentré sur Paul Sexas. Mais figurez-vous, je vous l'annonce, hein, que t'as des Pogacar.
C'est Pogacar qui mène.
Non, mais Pogacar a remporté une quatrième étape sur le Tour hier, je vous assure.
RMC, les GG sur le buzzer. Il est prisonnier.
C'est le jour de la marmotte.
d'un jour sans fin.
C'est parti pour Tadej Pogacar. Vingegaard est dans la roue, il ne peut pas, il s'en retourne déjà. Vingegaard est battu. Tadej Pogacar est facile, il se promène, il ne fait pas de cadeau aujourd'hui. C'est pour lui la victoire pour Tadej Pogacar.
C'est le jour de la normale.
Non bah ça y est, c'est terminé. Tadej Pogacar qui a lâché Isaac Del Toro. C'était trop dur pour le Mexicain. Tadej Pogacar désormais tout seul en tête.
Peut-être qu'après la première étape de montagne, il n'y aura plus aucun suspense ce soir sur la victoire du Tour.
Tadej Pogacar qui franchit la ligne. Victoire de Tadej Pogacar sur cette sixième étape du Tour de France.
C'est le jour de la normale.
C'est parti pour Tadej Pogacar. Tadej Pogacar et son maillot jaune ont décidé de placer la flèche. Et ça fait mal, ça fait très mal. Derrière, personne n'arrive à suivre la fusée. Tadej Pogacar, quand il a voulu démarrer, il a placé son attaque. Il va pouvoir lever les bras dans un instant. Tadej Pogacar qui s'impose au Lyon.
C'est le jour de la normale.
Et voilà, c'est l'attaque de Pogacar. C'est parti pour Tadej Pogacar. Pour l'instant, personne ne réagit. Tadej Pogacar dans sa tunique jaune qui va s'imposer dans quelques instants ici au Max Stein.
Je ne fais que revivre le même jour encore et encore.
Vous vous souvenez du film Un jour sans fin avec Bill Murray, Andy McDowell. Il se réveille tous les jours, dans le même jour, le jour de la marmotte. Et c'est vrai que c'est un peu l'impression qu'on a sur le Tour de France. Enfin, presque, on caricature un peu, mais c'est vrai qu'il y a lui et les autres. Hein. Mais entre lui et les autres, en fait, il y a un monde, il y a une galaxie peut-être. Facile Pogacar qui allait décrocher son quatrième succès sur la grande boucle hier. Sa 25e victoire d'étape sur le Tour depuis ses débuts en 2020. Ce matin, en général, le maillot jaune, puisque c'est lui, hein, compte 4 minutes 30 d'avance sur son dauphin Jonas Vingegaard. Le cinquième tour pour égaler le record de Merckx, Hinault, Anquetil et Indurain lui tend les bras dans une semaine à Paris sur les Champs-Élysées. Les GG, je vous pose la question parce que je sais qu'on a reçu beaucoup de messages là-dessus et je voulais qu'on mette sur la table. Est-ce que le Tour de Pogacar vous intéresse, Fred?
Oui.
Pascal?
Non.
Marion?
Oui.
Sarah?
Non.
On vous attend évidemment au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. Fred, t'intéresses au Tour de Pogacar?
Oui, évidemment.
L'écrasante domination.
Je le dis à chaque fois, je suis un fan absolu de ce garçon. Il m'a fait réaimer le cyclisme. Alors évidemment, il y a toute l'équipe, hein, les Jérôme, Christophe, Maria, etc. J'espère ne pas avoir oublié quelqu'un. Oui, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est que ce Tour de France qui est réputé tellement difficile, tellement d'obstacles, tellement impossible quasiment de gagner d'année en année, bah lui, il gagne des étapes. Il est toujours puissant. Il est toujours impressionnant. Il peut toujours faire des choses spectaculaires. Et moi, c'est ce que j'aime dans le sport. Alors oui, parfois, certains peuvent dire que ça devient lassant. Mais moi, je trouve pas lassant le fait de voir un super champion performer à 200%. Moi, je trouve ça, au contraire, magnifique, fantastique. Et encore une fois, moi, Pogacar m'a remis, entre guillemets, dans les roues, sans faire de mauvais jeu de mots, du Tour de France, parce qu'il me fait rêver, parce que c'est ce que j'ai envie de voir dans le Tour de France.
De voir qu'après la deuxième étape, c'est joué.
Oui, mais dans ce cas-là, tu regardes pas la Ligue 1, dans ce cas-là, tu regardes pas... Il y a plein de choses comme ça. Peu importe, l'important maintenant, moi, c'est Pogacar. Et c'est que ça, savoir s'il va pouvoir être dans le podium. Mon Tour de France sera parfait de ce point de vue-là.
Il sera réussi
à 200%.
Pascal.
Parce que lui, il sera champion. C'est la différence, ça.
En fait, j'entends ce que dit Fred et on peut en convenir. Mais cela dit, il est jeune. Moi, je suis un peu plus âgé que lui. Et il va tellement vite que j'arrive pas à le suivre sur la télé. Donc, je me mets à l'écoute de la Dream Team. Et franchement, la voix suave de Christophe, les commentaires mais toujours avisés des deux Jérôme, Maria, tout ça, ça me fascine. Et puis, j'attends les commentaires sur le deuxième, le troisième, le quatrième. Les humains, quoi. Tu vois, Fred?
Moi, j'aime, c'est les humains qui m'intéressent. Moi, j'aime pas ça.
Peut-être, mais moi, je vis avec des humains, donc j'aime les humains. Je trouve que Pogacar, attention, il déshumanise le Tour de France. Comme tous les grands champions, certes, peut-être, mais moi, il me fascine pas tellement.
Ça t'éclate pas s'il gagne 8, 9, 10 étapes à la fin du Tour. Il en a 4.
Et à la limite, même quand il fait gagner son partenaire dès la deuxième étape. Ouais. Voilà, je me dis, mais vous me dites tout ce qu'il est sympa, qu'il est truc, condescendant, quoi. Tu vois,
attention, il est sympa en dehors du vélo, mais c'est vrai qu'il il aime écraser ses adversaires.
Mais c'est un super champion. Il a une position dimensionnelle.
J'entends ce que tu dis, Fred.
Marion, tu te lasses pas, toi, de voir Pogacar effectivement écraser la concurrence?
Non, alors, événement ce matin, je suis complètement d'accord avec Fred. T'imagines, il a fallu qu'on attende.
Je m'en vais, moi, c'est fini pour moi.
On aurait dû commencer par là, l'émission aurait été différente.
Sacré compliment que tu lui fais, Fred. Bravo Fred.
Quel
séducteur.
Tu sais bien que je suis fan absolue de Pogacar, donc de le voir encore gagner. Et puis, pour savoir à quel point là, enfin, c'est difficile de garder son titre lorsqu'on est attendu de tous, lorsqu'on a une immense cible dans le dos, lorsque tout le monde veut vous désinguer, d'être à nouveau comme ça aussi dominateur. Moi, j'ai une fascination profonde pour ce garçon. Et surtout, ce qui m'impressionne, c'est qu'en fait, il transforme quasiment chaque occasion de faire des écarts en gain de temps. Il n'en rate pas une. J'ai l'impression qu'il fait aucune erreur. Et ça, je trouve ça absolument fabuleux. Donc, oui, pour tout ça, pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il arrive à faire, on banalise ses performances. Moi, je les banaliserai absolument jamais parce que c'est trop difficile quand on est numéro un de rester tout en haut et de le voir encore une fois cette année écraser le tour. J'ai un respect profond. Il est le meilleur dans quasiment tous les domaines. Il a aucune faille. Donc, quand tu vois que Vingegaard est lâché déjà à plus de 4 minutes 30, tu comprends la domination du garçon.
Oui, bah en fait, ça ressemble à d'autres tours qu'on a vus. En fait, hein. Il y a,
oui,
y a
mais
pas beaucoup de nouveautés, Sarah.
J'ai un profond respect pour ça parce que c'est trop dur de rester tout en haut.
Sarah.
Pourquoi je dis non ? Parce que la question, c'est le tour de Pogacar vous intéresse-t-il ? La question, c'est qu'effectivement, avec ce qu'il a fait toute cette saison, je suis un peu comme Fred, c'est-à-dire que j'ai tendu l'oreille, j'ai regardé le vélo. Là, en l'occurrence, c'est que il a tué le game un peu trop vite, que ce petit rictus qu'hier, quand on le voit accélérer, ce petit rictus où on a l'impression que l'effort n'a pas de prix.
Alors
sur
il sourit, lui il dit que quand il souffre, il sourit.
Oui,
bon, ça va. On n'est pas obligé de le croire.
On n'est pas obligé de le croire, en effet. Et puis il y a surtout les déclarations de tous les autres coureurs qui en fait n'osent plus rien faire en fait. C'est comme s'il asphyxie un peu la course
et ils font leur course quoi, ils le laissent lui faire sa course en fait.
Mais ils tentent plus rien aussi et ça me fait penser, alors toute proportion gardée hein, un certain Armstrong qui tuait la course.
Oui, mais lui, il terrorisait le peloton aussi. Lui, c'est par son niveau qu'il terrorise le peloton, pas par son attitude.
Non, mais attitude. Alors, attends, il n'y a pas de problème à mettre ce sujet-là sur la table, Sarah. Parce que juste, on est transparent dans les grandes gueules du sport. Je reçois plein de messages là-dessus, sur la comparaison, effectivement, avec la domination à l'époque, parce que c'est des dominations comme on en a rarement eu. On rappelle juste que nous, on ne va pas parler à l'antenne de suspicion, de choses comme parce qu'en fait, on ne parle que de choses concrètes. Il y a des présomptions d'innocence et tout ça. Je vous entends, hein, ceux qui disent on verra dans quelques années et tout ça. Oui, très bien, on verra. Mais en fait, aujourd'hui, nous, on ne peut pas dire autre chose. En fait, je sais qu'on nous le reproche parfois, mais si on disait autre chose, on nous le reprocherait également. Mais comment on pouvait dire
on ne fait que du factuel, en fait.
C'est de la diffamation, il se passe rien.
Exactement. Et c'est important de le rappeler.
Quand je tente une comparaison entre les deux, c'est qu'en fait, finalement, c'est pas la victoire, c'est de tuer les opportunités de tenter quelque chose.
On se posait la question il y a quelques semaines, est-ce qu'il en fait pas trop, on se disait avant le tour.
Et alors peut-être qu'à l'époque, effectivement, Armstrong terrorisé par sa présence, par la distance, par le côté
par les menaces,
évidemment, on donne le mauvais exemple, mais Eddie Merckx, il s'appelait pas le cannibale pour rien. Eddie Merckx, il était comme ça, il l'écrasait ses adversaires. Bernard Hinault, Pascal, tu te souviens quand on a eu Bernard il y a deux semaines à Barcelone au départ, Bernard qui lui a dit, j'ai vu que le mec il était en difficulté et boum, je lui mettais dans la tête.
Il y a le sport où tu développes les watts, mais il y a aussi le fait que tu joues quelque chose dans le peloton.
En fait, est-ce que le côté pas de pitié de Pogacar est critiquable?
Non, j'adore, je suis hyper fan, c'est un cannibale, c'est son job.
Non, c'est pas ça, c'est que moi, le tour de Pogacar aujourd'hui ne m'intéresse pas, alors que tout ce qu'il a fait dans le reste de la saison m'a intéressé. C'est pour ça que je réponds à la question sur le tour.
Alors Jeff sur WhatsApp 06 12 424 424 me dit bien sûr que le tour de Poggi m'intéresse. Maintenant on attend des attaques puisque la montagne n'est pas finie, il peut aussi craquer. Bon, on a du mal parce que effectivement comme le disait Marion, mais il y a pas de trou dans la raquette, on a l'impression c'est surtout ça qui est presque un peu, comment dire, c'est difficile à vivre quoi. On se dit mais on va jamais le voir en difficulté.
Mais quelque part l'espoir existe en disant il est peut-être humain et peut-être qu'il va craquer.
Bruno me dit ce n'est pas la faute de Pogacar s'il n'a pas de rivaux. On peut l'entendre.
Mais moi je suis d'accord.
Hier, Pogacar a dit Vingegaard, je l'adore, mais c'est vrai qu'il n'est peut-être pas au même niveau, il n'a pas la même étincelle qu'il y a quelques jours. C'est quand même Pogacar qui note ses adversaires.
Oui, mais enfin, il n'a pas aussi les mêmes équipiers. Del Toro pourrait être le leader dans une autre équipe aussi. Hein.
Après, Visma est une belle équipe.
Il est meilleur que les autres quand même. Quels que soient les équipiers, ça ajoute à sa supériorité. Mais quels que soient les équipiers, il est meilleur que les autres. Donc voilà, et tous les autres sont au rupteur, alors que lui, il est encore un cran au-dessus. C'est ce qui. Moi, en fait, ce qui m'interpelle, c'est qu'il n'y a jamais de jour sans, quoi. Tout le monde me dit le Tour c'est dur et j'ai l'impression que quand tu le vois attaquer, lui, sourire, attaquer et sourire, j'ai l'impression que c'est antagoniste. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que le vélo c'est la souffrance.
Parce qu'en fait le truc c'est qu'à partir du moment où t'as décidé d'une certaine façon que ce tu n'étais pas fan de ce personnage, oui, tu ne peux rien accepter de lui. Voilà, c'est comme Schumacher à une époque. Souvenez-vous, oui, Schumacher. Alors Schumacher, c'est encore plus insupportable, hein, pour le coup, le baron rouge là. Pour ceux qui l'aimaient pas. C'est ça que je veux dire. Pour ceux qui l'aimaient pas, tu te calais tous les dimanches devant ton Grand Prix et tu disais bon, on va voir la course devant et on va voir où termine Barrichello.
Joko, Dieu sait s'il a fait la controverse, mais je suis fan de Joko. Je suis fan. Il a été.
Il a été écrasant parfois.
Oui, mais il y avait quand même deux concurrents, plus que des concurrents contre lui. Donc ça ajoutait au.
Oui, mais une nouvelle fois, c'est pas de la faute de Pogacar, ça.
Combien de temps on a entendu chaque année?
Non, mais combien de temps ça va.
Parce que c'est Nadal qui va gagner.
C'est vrai.
Non, mais combien de temps. Là, moi, j'ai l'impression qu'il va gagner 10 Tours de France.
Il y a Sexas qui arrive, calme-toi, il arrive.
Non, mais en plus, c'est vrai que.
S'il le mérite, il est plus fort que les autres, pourquoi il ne les gagnerait pas?
Mais aussi fort physiologiquement, au point de gagner 10 Tours de France consécutifs. Moi, c'est là où j'arrive pas à le croire.
Mais en fait, c'est juste que c'est les longues dominations, comme il y a eu celle de Nadal à Roland Garros, voilà, comme il y a eu le Barça même en foot à une époque.
Il s'est fait quand même huer et siffler.
Ouais, mais ça reste quand même ponctuel, Sarah. Ça reste marginal, voilà, exactement. Ça reste marginal, mais après, c'est vrai que les grandes dominations provoquent aussi ce genre de réaction qu'il faut pas encourager d'ailleurs. C'est important de le dire parce que c'est parfois aller très loin dans l'histoire du Tour de France, mais voilà, on va pas commencer à se dire. Est-ce qu'il faut commencer à se dire, Pogacar, il faut peut-être qu'il soit un peu moins dominant sur la dernière semaine?
Mais non, mais bien sûr que non. Justement, les grands champions, c'est à ça qu'on les reconnaît.
Est-ce que Pogacar, s'il est malin, il laisse filer un Sexas pour une victoire d'étape cette semaine?
Parce qu'il a gagné. Il a gagné tellement. Il est tellement fort. Il domine tellement. Il continue à dominer. Moi, je trouve ça extrêmement fort.
Parce que s'il était constant. S'il était politique, Pogacar.
Que chacun, c'est individuel. Je ne veux pas que Pogacar ait une défaillance. Enfin, je n'attends pas que Pogacar ait une défaillance ou qu'il crève, peu importe. Mais son tour là aujourd'hui ne m'intéresse pas, c'est tout.
Ce que je veux dire, c'est que dans la deuxième étape de l'Alpe d'Huez, il a gagné la première tout là-haut. Est-ce qu'il voit ça que ça se partir? Est-ce qu'il ne doit pas se dire je laisse filer,
mais
c'est bon, j'en ai neuf.
C'est pas ça un champion, c'est pas ça.
J'ai trois heures d'avance au général. Je suis arrivé à Paris hier, ils sont encore à Bordeaux, les mecs.
Tu sais quoi, il aurait trois heures d'avance, il continuerait à vouloir écraser tout le monde parce que c'est son tempérament, c'est sa façon d'être.
Non, mais en fait, voilà, c'est tout simplement comment on réagit chacun à la domination et en fait à l'attachement qu'on a au champion. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Mais il est déjà arrivé. Il est dans le bastien. Rentre dans le studio.
On va
en
discuter.
On va débriefer ensemble. Allez, évidemment, il y a plein de messages, hein, bien sûr, sur les WhatsApp. Tout simplement, je vais y arriver. Non, mais voilà, c'est ça. C'est un syndrome très français pour Pogacar, me dit Nico. Si jamais c'est un Français qui est dans cette domination, qu'est-ce qu'on va dire? On dirait que c'est un super champion. On dira, allez, c'est parti, la Marseillaise. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais voilà, c'est évidemment des sujets qui nous divisent toujours. Ils sont intéressants à remettre sur la table, comme on va voir dans un instant qui est le plus cultivé, tout simplement. Moi, je vais voir qui a le plus de culture tout de suite. Les jeux du sport arrivent sur RMC. Et ça va pas rigoler, je peux vous le dire. Là, c'est une histoire de domination.
On va se concentrer, là.
Ah, je vois bien. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Les grandes gueules du sport, derrière ligne droite, tiens, j'ai un message de Gilbert sur notre débat il y a quelques instants sur est-ce que le Tour de Pogacar vous intéresse vraiment. Gilbert me dit, est-ce que demander à un sportif de laisser gagner les autres, ce n'est pas un manque de respect pour le sport et pour les autres? Vous n'avez pas parlé de Duplantis pour comparer. C'est vrai, Duplantis à la perche qui n'en a rien à faire. Allez, bam, bam, record du monde, et quoi? je suis à 9 mètres, vous êtes
non,
à 2.
Je pense que c'est pire que tout de laisser gagner, c'est un manque de respect, absolument.
Ouais. Ben, on va voir. Vous allez laisser gagner quelqu'un là maintenant?
Mais non, pourquoi il l'a pas fait, pourquoi il le ferait?
Non, mais là,
ça dépend des équipes.
Moi, j'ai envie de laisser gagner
mais
ça.
Mais là, vous allez laisser gagner quelqu'un dans les jeux du sport? Là?
Ah ben, on laisse gagner personne.
RMC, les jeux du sport.
comme Bennett, tu vois. Bennett, il est dans une nomination, il dit je m'en fous, moi je suis là pour vous écraser. Et il avait raison, même si Christophe Cessieux du coup n'est plus en studio parce qu'il était trop touché par ce qui s'est passé. J'embrasse Christophe, je suis sûr qu'il nous écoute. C'est du 2 contre 2, vous défendez un auditeur. Les équipes, j'ai vu qu'ils s'aimaient sur la fin de l'émission, je les ai rapprochés. Marthe Olivais, ensemble. Okay. Et Duprat, Pitkovski. Marthe Olivais, tu les enfermes dans une salle. Je sais pas ce qu'il
y a. Il y a une telle entente en face que ça va être difficile, Sarah. Hein, mais on va résister. Ouais. Hein.
Il va falloir jouer collectif, Pascal.
Ouais, je vous rappelle qu'il y a une question
impossible. C'est les mêmes, les deux.
Question impossible, activable par un seul joueur par émission. Le seul à jouer, une bonne réponse, c'est 3 points. Une mauvaise, c'est 1 point en moins. J'accueille nos auditeurs, Loïc et Mathieu. Salut, les amis.
Salut tout le monde, salut les amis.
Et bienvenue dans les GG. Loïc, c'est toi qui nous appelais en premier de Lot-et-Garonne. Tu choisis quelle équipe, Marthe Olivais ou Duprat-Pitkovski?
Bartoli, Marion.
Bartoli, t'as raison, Fred, on s'en fout.
Ouais, t'as raison, on s'en fout de Fred. Et Marion,
c'est ça, vas-y. D'ailleurs, sors, Fred, sors. Mathieu, tu es avec Pascal Duprat et Sarah Pitkovski. Je vous rappelle, aujourd'hui, vous pouvez gagner un bon cadeau de 50 euros à valoir sur Agfa Photoprint. Par exemple, vous pouvez avoir un t-shirt XXL avec Fred, par exemple. Et les deux, et Marion Bartoli sur les manches. Allez, les amis, c'est parti. Les GG, concentrez-vous, s'il vous plaît. Question à une seule réponse. Paul Sexas a 19 ans. Comme Kimi Antonelli, pilote de Formule 1. Lamine Yamal a 18 ans. Quelle équipe était championne du monde de foot en titre à leur naissance?
L'Italie.
L'Italie. Oh là là, Marion, c'est calculé.
2006,
vite, là.
Italie.
Oui, c'est bon, on a compris.
Oui. Non, j'ai toujours un temps décalage, du coup, je répète parce que voilà.
J'adore. Allez, 1-0 pour l'équipe Bartoli Weiss. Enfin, l'équipe Bartoli, on a compris. Question à une seule réponse. Une seule réponse. Messi peut gagner 2 Coupes du Monde. Mais combien de Ligue des Champions il a gagné?
4.
4, Fred. Oh là là, mais t'es là en fait. C'est là, Fred, en fait.
C'est là, en fait.
Pascal, je veux pas te mettre la pression.
Allez, t'as mêlée de façon.
Non, mais pas de pression.
Non, mais là, après,
hier, on est revenu au score. Ouais, avec
après, ils prennent de la place, hein, les deux, là. Franchement,
oui,
2-0.
Oui, oui.
Question auditeur, c'est pour vous, Mathieu et Loïc. Vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom.
Allez, Loïc.
Attention, les GG, si vous parlez à leur place, c'est un point en moins. Loïc et Mathieu, où se dispute ce week-end le Grand Prix de Formule 1? 5, 4, 3, 2, non, 1, 0. C'est à Spa-Francorchamps en Belgique.
Ouais, c'est pas grave, Loïc.
Et ce sera à 15h sur RMC à suivre. On reste toujours à 2-0 pour l'équipe Bartoli Weiss. Question à une seule réponse. Donnez-moi le nom exact du stade de la finale de la Coupe du Monde ce soir.
MetLife.
Ouais, c'est Marion.
MetLife Stadium.
C'est une seule réponse.
Elle en a donné 14.
Elle en a donné 14, non, Marion.
Non, non, en fait, elle l'a donné à. On va dire, il y a eu une syllabe en plus à chaque fois. MetLife Stadium.
Il m'a semblé que Sarah l'a donné, par contre.
Elle nous a fait un slam, tu ne veux pas comprendre.
Ouais, elle a fait un slam. On est d'accord, 3-0, me dit Kylian Deroff, notre producteur adoré. Question à plusieurs réponses. Non, question à une seule réponse, tiens. On est là pour être dur, c'est l'exigence, hein, on est d'accord.
Oh,
Tadej Pogacar a remporté 25 victoires d'étape sur le tour. Mais il est encore loin du recordman, c'est qui?
Merckx.
Non, éliminé.
Hino.
Bah non, éliminé, je t'ai dit.
Hino.
Non.
Ah, mince.
Non. Et il reste plus que Marion, 5, 4, 3, 2, 1.
Et Sarah?
Marc Cavendish, celui qui a remporté le plus d'étapes.
J'allais
avec
dire Armstrong, mais c'était sûr que c'était
ouais. Ben oui, parce que tout lui a été enlevé. Donc.
Ben oui, tout a été enlevé. voilà. C'est pas Cavendish.
Mathieu et Loïc, votre réponse et votre prénom. Qui est actuellement, ce matin, le maillot blanc du Tour de France?
Sexas,
Pascal qui a parlé. Moins un point, on est donc à 3.
Alors, pour résumer, Pascal a mis une réponse et il a donné au mauvais moment.
C'est ça. Non, mais c'est un panard.
Non, j'ai manqué de concentration. Vraiment, désolé, Sarah. Je te fais perdre.
Je crois que.
Bah, tu fais perdre sur tout match, notre auditeur. Bah ouais.
Je tente la question.
Allez, oui, tu veux
attendez,
pas.
Attendez, question à élimination pour 2 points d'abord. Attendez, il reste 2 minutes 30. Allez, vous répondez à tour de rôle. Une erreur et vous êtes éliminé. Donc, la finale de la Coupe du Monde ce soir se dispute à East Rutherford, dans le New Jersey, près de New York. Je vous demande, j'aurais pu dire New York, hein. J'aurais accepté. Donnez-moi toutes les villes où se sont disputées les finales de Coupe du Monde. Allez, on commence par Pascal.
Munich.
Pays, hein.
Munich, non, les villes.
Ah oui.
Munich, c'est bon, c'était en 74. Marion.
Doha.
Allez, j'accepte, c'est l'Useil, mais j'accepte.
Oui, enfin, ça va, ça va.
Ville au Qatar.
Eh bien, je fais ce que je veux d'abord. Si je veux, je refuse la réponse. Sarah.
Paris.
Oh. Paris. En 38. Fred.
Barcelone.
N'est éliminé. Ouais, Pascal.
Berne.
Berne, bien sûr, en 54. Marion. 5.
Séoul.
4. Séoul éliminé. C'est parce que la finale 2002, c'est 2002 c'était à Tokyo, à Yokohama, là où le Brésil a été sacré. Sarah.
Rio.
Rio de Janeiro.
Oui.
Bien sûr, tu vas parler dans ton micro pour le dire par contre
oui,
ou on est juste ensemble entre nous.
C'est bon.
Pascal.
Vas-y Pascal.
Montevideo.
Montevideo en 1930. Allez, les deux points sont pour vous. Allez, 3-1. Il reste une minute. 3-1 pour l'équipe Bartoli Weiss.
On est à moins 1.
Eh oui, bien sûr.
On le prend là.
De quoi?
Oui, oui, oui.
La question,
oui.
Qui la prend?
Tu prends.
Bah, comme tu veux, si vas-y, tu veux, je suis ridicule, je la prends.
Allez, Pascal, question impossible. Pour passer devant, vous êtes quand même étonnamment. Je vais dire.
Serein.
Ouais, serein.
Mais on.
Voilà.
On est coéquipier.
Question impossible vélo. Il reste 40 secondes, c'est très simple.
Si tu la réussis. Non, pardon. Tu me fais peur.
Si tu réussis la réponse, vous passez devant, vous gagnez. Parce qu'il n'y aura plus de temps
d'arrêt.
3 points, tout à fait.
Qui a chanté la dernière séquence?
La dernière séance.
C'était la dernière séance et la séquence, en fait.
Ah ouais. Mais il n'y a pas de question de tennis là-dedans.
Qu'est-ce que. Si, mais si t'as pas demandé la question impossible, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pascal, combien de buts a marqué le Brésilien? Le Brésilien Ronaldo dans sa carrière en Coupe du Monde. Je veux le nombre exact.
Je crois que je l'ai, mais c'est 12.
Tu crois que tu l'as, c'est 12, et sais. C'est effectivement bravo 15. 15, ah, c'est 15,
mais non,
c'est perdu.
Mais non, t'as perdu.
T'es pas gentil, Georges. Je l'ai vu hier en plus.
Mais non, tu l'as pas vu, la preuve c'est que tu l'as pas vu.
Si, c'était. Ouais, mais... C'était sur mon écran.
Allez, la victoire. Et donc pour l'équipe Bartoli Weiss, c'est pour Loïc. Félicitations, Loïc.
Les jeux du sport sur RMC avec Agfa Photoprint. Gagnez 50 euros de bons cadeaux pour éditer un album photo ou développer vos pellicules et appareils jetables à petit prix en moins de 10 jours.
Les villes de finale de la Coupe du Monde, il y en avait plein. Il y avait Saint-Denis, il y avait Berlin, Johannesburg, Moscou, Pasadena, Rome, Mexico, Madrid, Buenos Aires, bref.
Mais non, moi j'étais resté sur Séoul, voilà. Donc, après, j'ai perdu.
Ouais, mais Séoul, c'était
mais
les jeux,
c'était
pas
Moscou, quoi. J'allais
dire Moscou. Mais t'as gagné, Marion. Bravo, Marion, bravo, oui. Fred. Sarah Pitoski est déjà partie.
Juste pour le fun, est-ce qu'il y avait une question de tennis ou pas dans les 1 point?
Ah non, mais, mais ça, tu verras quand tu tenteras la question impossible.
Si
oui, il y en avait.
Non, mais,
attendez, t'en es pas là pour faire ton quiz, Marion. Tu verras la prochaine fois. Allez, Pascal, tu restes avec moi pour les paris RMC. À tout de suite.